totalement ce qui
se passe. C'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs. Le rapport MENA Finance a publié vendredi dernier les résultats des enquêtes sur la vérité des prix des denrées alimentaires de grande consommation en RDC. Il ressort de ce rapport que le commerce triangulaire qui se fait autour de ces produits n'applique pas la vérité des prix. Un carton de chéchard, par exemple, qui ne peut excéder 21 dollars au prix de l'importation, est vendu à pratiquement 100 dollars, soit une spéculation très significative. Comment commentez-vous ces rapports et que faire pour établir la vérité des prix de ces produits? Composez les 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Mpoutou, Pierre Lameji et Jean-Noël Mokondo réalisent cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Prenant la parole lors de la présentation de ce rapport, le ministre de l'économie a dit, je cite, « Ce contrôle des prix devrait se pencher sur l'analyse des facteurs qui impactent sur les coûts de revient final de ce produit, y compris les aspects incluant tous les internes, aussi bien au niveau des pays fournisseurs que producteurs. » Aujourd'hui, comme je l'ai dit à titre illustratif, un carton de chinchard, par exemple, qui ne peut excéder 21 dollars au prix de l'importation est vendu à presque 100 dollars, soit une spéculation très significative. C'est pourquoi nous en parlons avec vous. Eddy est à Lubumbashi. On va lui accorder la parole tout à l'heure. Et puis Adrien qui est à Kananga. Nous vous invitons, chers auditeurs, à composer également le 081 890 63 15 pour participer à cette émission. Et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. En tout cas, vous tous, nous souhaitons les bienvenus.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. La Troïka stratégique du 3 août 2012 avait décidé de recruter un cabinet d'audit international devant mener une mission de contrôle des prix et d'identification des circuits des produits importés de grande consommation. Une année après, les conclusions des résultats d'enquête sont sorties avec quelques recommandations. Jean-Paul Nemoyato, vous êtes ministre de l'économie. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, mon frère.
Alors, quelles sont les conclusions de ces rapports?
Merci beaucoup. Comme vous avez dit, c'est depuis le mois d'août que le gouvernement, à travers la Troïka, a procédé par un appel d'offres direct au recrutement d'un consultant, ce MENA Finance qui a été donc sélectionné. Le consultant a travaillé pendant 8 mois. Il a fait un travail professionnel en profondeur sur terrain. Des données ont été collectées ici au Congo et au niveau des pays de la région. Et aujourd'hui, depuis le vendredi le 26 juillet, vous avez suivi que le consultant a rendu public le rapport de ses investigations à l'hôtel Memling et toute la presse a été conviée aussi pour suivre en direct ce rapport. Et aussi aujourd'hui, je tiens à vous informer qu'après cet entretien, il est prévu un point de presse que je vais personnellement animer au niveau de mon ministère pour que les conclusions de ce rapport soient largement largement diffusé, notamment par la presse que vous êtes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les principales conclusions que le consultant a trouvées? Il y a plusieurs, notamment, le premier élément, c'est que le consultant a trouvé que l'hyperinflation qui frappe la RDC est une réalité incontournable et qui est conséquente, n'est-ce pas, à la crise financière internationale. L'hyperinflation, donc l'augmentation excessive des prix des produits alimentaires, c'est une réalité incontournable qui a été accentuée surtout par la crise financière internationale. Deuxième élément, c'est que nonobstant le fait que beaucoup de pays souffrent de ce phénomène, mais la particularité c'est que en République démocratique du Congo, les produits alimentaires coûtent quand même plus cher que partout ailleurs. C'est que par exemple, le consultant donne un exemple que quand vous prenez un kilo de riz, un kilo de poisson salé, un kilo d'haricots et un kilo de viande bovine, ce petit panier fait que, en République démocratique du Congo, pour l'obtenir, il faut dépenser plus de 29 dollars américains, alors que si vous êtes au Congo-Brazzaville en face, c'est à peine 17,7 dollars, alors que quand vous êtes au Ghana et en Côte d'Ivoire, le même panier qui coûte pratiquement 30 dollars ici, ailleurs, donc dans ces deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ça ne coûte que 15 dollars. Ce qui fait que toutes choses restant égales par ailleurs, en République démocratique du Congo, ces produits alimentaires coûtent quand même plus cher que partout ailleurs.
Donc il n'y a pas de vérité des prix.
Il n'y a pas de vérité des prix. Une autre conclusion, c'est que il y a l'incohérence des statistiques à l'importation produite par les services de l'État, notamment l'OCC, Bivac, qui ont l'avantage d'être en amont parce qu'ils peuvent déjà saisir les quantités à partir de ports d'exportation étrangers, alors que au niveau intérieur, les statistiques de la DGDA sont dans la plupart des cas inférieures à ce que... Alors cela contribue aussi à ce que le vice-premier Moukoko appelle le coulage des recettes. Il y a aussi la manipulation à souhait des valeurs FOB, n'est-ce pas, et des valeurs CIF donc au niveau des ports d'entrée. Mm-hmm. Ce qui fait que les importateurs manipulent à souhait, n'est-ce pas, les vrais prix. Ils peuvent, selon leur bon vouloir, surestimer le prix d'achat à l'étranger, justement pour justifier en aval la hausse du prix, donc qui inclut des marges bénéficiaires excessives, comme le consultant l'a constaté. Et en conséquence, les prix de vente de consommation, donc à la consommation, sont excessivement élevés et incorporent des marges bénéficiaires qui sont excessivement élevées.
Donc c'est une bonne nouvelle.
Quand... Et les marges bénéficiaires élevées, ça il faut que je le dise, c'est que alors que la marge bénéficiaire pour les importateurs, c'est généralement entre 10 et 13%, mais... en ce qui concerne le commerce des chinchards, par exemple, pour l'exercice 2012, chiffre à l'appui, les consultants a trouvé que les importateurs ont encaissé le marge bénéficiaire de 38%, soit trois fois ce que la loi les autorise. Donc, voilà, pour ne prendre que ces quelques conclusions qui sont francs pas,
et tout ça. Et cette marge bénéficiaire de 38%, ils ont récolté pendant plusieurs années. Sûrement, ils seront sanctionnés aujourd'hui avec pénalité.
Oui, mais vous voyez, rien que pour l'exercice 2012, la marge était de 38%. Mais parce que le consultant a fait une analyse chronologique, on a vu que, par exemple, pour 2010, c'était autour de 37%, mais dans tous les cas, c'est plus de 30%. Et donc, il y a là un phénomène de trop perçu. les trop perçus dans les chefs des opérateurs économiques. Pendant très longtemps, on a terni l'image du gouvernement qu'il y a l'excès, l'inflation est due seulement à la présence des taxes illicites, des taxes sans contrepartie, n'est-ce pas, que les services de l'État perçoivent. Donc les opérateurs économiques mettent la responsabilité de l'inflation, n'est-ce pas, aux services publics. Mais en réalité, quand vous lisez les rapports, vous trouvez que alors que le gouvernement a déjà fait un effort dans le cadre de Doing Business, il y a beaucoup de taxes dites illicites qui sont effectivement supprimées par le gouvernement. Alors, c'est injustifié que nous puissions arriver à ce type de situation qui sont intolérables et qui effritent, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des consommateurs.
Alors, monsieur le ministre, avant que nous accordions la parole aux auditeurs, mais c'est vrai, à en croire vos propos, c'est comme si vous êtes déterminé par rapport aux recommandations qui sont sorties de ce rapport pour réellement sanctionner, mais une curiosité nous amène à chercher à savoir donc quelle est la responsabilité de la commission des structures des prix au sein du ministère, parce que généralement c'est cette commission qui travaille à longueur de journée pour au fait évaluer le coût d'achat et le prix des revient pour chercher à équilibrer la marge bénéficiaire. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de la commission qui travaille au sein de votre ministère?
Dans les conclusions de l'auteur, donc du consultant, il revient aussi sur ça, l'inefficacité du contrôle économique. Il faut l'avouer que l'administration de l'économie a une faible productivité dans ces faits. Vous avez vu à la télé, moi-même qui vous parle, il n'appartient pas à un ministre de descendre sur le terrain. Il n'appartient pas à un ministre d'aller faire le contrôle. Mais les quelques fois, il m'est parvenu moi-même à descendre sur le terrain. Pour prêcher par l'exemple, vous m'avez vu, lorsque j'ai travaillé sur le dossier du petit commerce, je suis allé dans ma propre province. Je suis allé à Kisangani, où j'ai eu à constater la flagrance, donc l'immixtion des étrangers dans le petit commerce et commerce des détails. J'ai scellé des magasins. Et quand je suis revenu à Kinshasa, ici aussi, vous avez vu, je suis allé au niveau du Grand Marché, au niveau des cartons, je suis passé et j'ai eu à constater les flagrances et j'ai fait sceller les magasins. Alors quand je suis revenu, j'ai dit à l'administration, mais écoutez, mais j'ai fait un tri aléatoire. Je suis allé et tous les magasins là où je suis entré, j'ai trouvé des flagrances. Alors vous là, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ça, en réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a une faible productivité de l'administration en matière de contrôle économique, il faut qu'on le dise.
081-890-63-15 ou encore le 081-890-43-39.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peinture ou photo, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous allons ouvrir la première série des auditeurs avec Eddy qui est à Lubumbashi et Maître Adrien qui est à Kananga. Eddy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Eddy, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, monsieur le ministre de l'économie, qui a brossé, au fait, les grandes lignes de conclusions de ce rapport MENA Finance qui a été publié vendredi dernier sur les résultats des enquêtes sur la vérité des prix des denrées alimentaires. Vous avez la parole. Comment commentez-vous ces rapports et que faire alors pour établir la vérité des prix de ces produits?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'accordez. C'est pour moi un honneur d'intervenir dans votre émission. En passant, j'aimerais dire que je félicite beaucoup le ministre Memoyato que j'apprécie tous les jours. Pour le problème des prix, vous savez, en physique, il y a un principe clé, le principe de la pesanteur. Mais en économie, pour moi, le principe clé, c'est le principe de l'offre et de la demande. Quand l'offre est proportionnelle à la demande, les gens ne vont pas faire des bénéfices excessifs. Donc ceci, la conclusion des conclusions dans tout ce qui est dit,
c'est que l'offre est inférieure à la demande. Rappelez-vous, il y a des années, le Saint-Charles coûtait très moins cher à Kinshasa. Pourquoi ? Parce que la population elle-même de Kinshasa, c'était 2 millions, 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 millions. Les Congolais, aujourd'hui, on parle de 70 millions d'habitants. Donc, la demande est très forte, l'offre est petite. Et lorsque l'offre est petite, tout ce que nous pouvons faire, des mesures que nous pouvons prendre à gauche, à droite, pour amener les commerçants à appliquer un taux normal, cela ne va rien faire. Maintenant, pour, comme solution, il faut augmenter l'offre. Par exemple, le problème des poissons. Il faut que nous puissions développer notre pisciculture, par exemple. J'ai suivi sur votre chaîne. Il n'y a pas une semaine, on a fabriqué un bateau pêcheur au niveau, je crois, de Bas-Congo. Et la construction de ce bateau n'a pris que 40 jours. À moins que ce soit votre journaliste qui s'est trompé. Mais moi, j'ai bien suivi 40 jours pour construire un bateau avec du bois d'une semaine de l'Équateur. Nous devons augmenter notre production en multipliant ce genre d'action, c'est-à-dire en fabriquant beaucoup de bateaux de pêche pour augmenter l'offre locale. Aussi, pour ceux-là qui importent, moi, je propose qu'on crée un fonds pour soutenir les commerçants qui sont dans la filière, par exemple, poisson. Si un commerçant vous dit qu'il importe par an 10 millions, pourquoi ne pas lui donner des moyens pour qu'il soit capable d'en importer 20 ou 30? Parce que quand il importe 10 millions, il faut peut-être un bénéfice de 500 000, mais en important 3 fois plus, il peut faire un bénéfice de 800 000, mais là, il y aura un impact sur le prix. Mm-hmm. Le problème, c'est l'offre, l'offre. Nous devons travailler, nous devons produire. À part le problème de l'offre, parce que moi, je dis, c'est le principe qui est le principe de principe. Mm-hmm. À part celui-là, il y a aussi, nous devons nous poser des questions. Est-ce que le commerçant du Ghana et le commerçant congolais éprouvent les mêmes problèmes? Vous arrivez au port de Matadi. Vous devez transporter ces marchandises par route jusqu'à Kinshasa. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas encore réhabilité le Nacra? Parce que juste si on transportait par la voie ferrée, directement là, il y a baisse des prix. Juste le fait de passer du transport terrestre au transport ferroviaire. Vous voyez un peu? Et puis, au niveau de Kinshasa, ils ont des chambres froides. Est-ce qu'ils éprouvent le même problème que ceux du Ghana? Peut-être qu'au Ghana, on a le courant 24 heures sur 24. Au Congo, vous savez vous-même, je ne vais pas entrer en détail. Peut-être qu'ici, ils doivent encore utiliser des groupes électrogènes.
Oui, rapidement, Eddy, parce qu'on va comprendre la parole à d'autres.
Il faut aussi voir si les commerçants congolais, oui, il faut aussi leur donner la parole. Avant de condamner quelqu'un, il faut lui donner la parole. Voilà. Même Saddam Hussein, qui a été arrêté, avant de le condamner, on lui a donné la parole.
Merci beaucoup, Eddy, d'avoir contribué à cette émission. Hein. Vous avez évoqué là l'effet de la pesanteur pour les comptes de la physique et l'effet de l'offre et la demande hein, qui est au centre, selon vous, de ces problèmes que nous abordons aujourd'hui. Vous avez dit qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à augmenter l'offre. L'offre, disons, par le développement du secteur de la pêche. Et vous avez proposé qu'on puisse instaurer un fonds pour soutenir les commerçants qui sont dans cette filière. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à Excellence, Monsieur le Ministre.
Voilà, vous avez suivi Eddy qui a proposé d'ailleurs l'instauration d'un fonds pour soutenir les commerçants qui sont dans les filières de poissons hein, et aussi renforcer en fait l'augmentation de la production de poissons dans notre pays. Vous avez à votre tour la parole pour commenter ces rapports de Mena Finance et aussi proposer quelques pistes.
Oui, merci, JR. Malheureusement, je ne suis pas de l'avis de mon prédécesseur, donc Eddy. Je pense que je salue d'abord le réveil tardif du gouvernement congolais, parce que nous n'avons cessé de déplorer et de condamner cette situation-là. Il trouvait que c'était normal. Notre gouvernement s'est comporté comme étant un gouvernement gendarme, là où la population et les consommateurs étaient abandonnés à son triste sort. Le problème, JR, c'est comme l'excellence venait de lire toutes ces conclusions-là. Mais lorsque vous entendez minutieusement ce que l'excellence venait de lire, mais je suis en train de me dire, mais le gouvernement est en train de se plaindre contre qui? Un gouvernement ne se plaint pas, un gouvernement agit. Nous voulons avoir des décisions qui sortiront de toutes ces conclusions-là. Là, c'est de un. De deux, JR. Il se pose un sérieux problème. Le ministre lui-même a reconnu, et ici, à Kananga et au Kasaï occidental, les inspecteurs économiques sont inexistants. Il y a certaines pratiques. Donc, lorsque vous parlez dans des différents magasins, différentes boutiques, le petit système-là d'affichage des prix, parce qu'il faut commencer par là, ou essayer un peu de donner une vision globale aux consommateurs, essayer un peu de comparer les prix. Donc, l'affichage n'existe pas, ce sont des prix qui se négocient, on vous regarde en face, vous avez une bonne ligne, on vous taxe les prix, bon, des choses comme ça. Donc, dans tout ça, vous voyez que l'État est démissionnaire dans tous ses services. Qu'est-ce que je pourrais proposer comme solution?
Oui.
Il faut qu'il y ait une commission de suivi pour voir des notions élémentaires pour protéger la population. Donc, lorsqu'il y aura une commission de suivi pour voir est-ce que les recommandations sont respectées ou bien ces recommandations-là ne sont pas respectées. Et pour deuxièmement, j'ai suivi l'excellence en train de dire non, les commerçants exagèrent. Mais, excellence, comment voulez-vous que ces commerçants-là ne puissent pas exagérer? Lorsque j'ai causé avec l'un des commerçants de la place, il déplorait la multiplicité des taxes. Et ce sont ces multiplicités des taxes-là qui font à ce que, lorsqu'ils achètent, c'est vrai, à moins cher de l'autre côté, arrivés ici à Kananga, et le gouvernement congolais multiplie des taxes, ils sont obligés de revoir des prix pour donc avoir des bénéfices.
Parce
qu'un commerçant vise toujours des bénéfices. Je pense si vous pouvez aussi avoir un œil vigilant de ce côté-là des taxes, et ça sera aussi l'une des solutions la plus efficace. Voilà ce que je pourrais donc communiquer à l'excellence JR.
Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé. Docteur Richard à Kinshasa et Omar, vous êtes dans la même ville que Docteur Richard. Docteur Richard, bonjour. Docteur Richard, vous êtes avec nous?
Bonjour à tous les Congolais qui écoutent avec attention cette émission de balisage qui peut les libérer demain parce qu'ils souffrent de malnutrition, etc. Parce que les prix sont 3 fois, 4 fois augmentés. C'est son excellence qui a dit. Merci. Allez-y.
Voilà, docteur Richard, votre point de vue par rapport à la question?
Pardon?
Votre point de vue, quelles sont en fait les propositions, les pistes de solutions que vous proposez pour qu'on arrive vraiment à établir la vérité des prix de ce produit?
Oui, la proposition pourquoi? Il y a une autorité. L'autorité a un canevas de travail. Et chaque ministre a les job descriptions. Et puis on n'aura pas dans les oreilles chaque fois autorité de l'État, autorité de l'État. Autorité de l'État ne veut pas dire seulement arroser des balles sur des manifestants. Ne veut pas dire aussi, je ne sais pas, fouetter les gens, etc. à gauche, à droite. L'autorité de l'État, c'est de veiller sur le job description de chaque ministre. Alors, maintenant, nous posons la question, 53 ans après l'indépendance, des choses comme ça se passent. Les effets ont raison. Nous avons affaire à des gouverneurs qui sont nommés et qui ne regardent rien, qui regardent leur poste, qui regardent, je ne sais pas, leur avenir, l'avenir de leurs enfants, et rendent des comptes à leurs maîtres qui les ont nommés.
Mais si je comprends bien, docteur...
Qu'est-ce que je peux proposer?
Docteur Richard,
oui.
Si je comprends bien, vous rejoignez Maître Adrien en
oui.
demandant à ce qu'on puisse vraiment renforcer la réglementation du marché intérieur par les contrôles a posteriori des prix des produits importés. Merci beaucoup, docteur Richard,
merci
d'avoir
beaucoup.
Appelé. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, J.R. Longuembo, et bonjour à Monsieur le Ministre, que j'apprécie beaucoup.
Voilà, Omar, vous avez la parole.
Merci beaucoup, J.R. Moi, je suis juriste, permettez que mon approche soit aussi juridique. Je voudrais rappeler à l'égard de tous que la RDC est un état de droit, c'est-à-dire un état où le droit a primauté sur tout secteur, même le prix. En TCJR, le prix est réglementé par l'ordonnance-loi du 20 mars 61, telle qu'est modifiée et complétée à ce jour. Selon cette loi, les prix des denrées alimentaires sont fixés par le ministre de l'économie en concertation avec les opérateurs économiques. Toujours selon cette loi, aucun opérateur économique ne peut fixer un prix illicite, c'est-à-dire un prix supérieur ou inférieur au barème fixé par l'autorité. Aussi, toujours selon cette loi, tout opérateur économique est obligé d'afficher les prix pour permettre au consommateur de savoir si celui-ci respecte le barème fixé par l'autorité. Cependant, M. Juir, lorsqu'on fait une approche sociologique, c'est-à-dire lorsqu'on veut comparer ces textes ou ces différentes mesures prises par l'autorité et la réalité sur le terrain, il y a, comme je l'ai toujours dit, un divorce consommé, une dichotomie, une incohérence qui ne sait pas dire son nom. Alors, nous remarquons de prix illicites, des prix anormaux qui ne respectent pas les barèmes fixés. Nous remarquons également les défauts d'affichage qui sont des infractions économiques très flagrantes. Pourquoi tout cela? Nous sommes en train de chercher des solutions pour changer. Premièrement, je pense que les premières causes, comme l'a dit l'invité, c'est les défauts des contrôles et des sanctions. Les contrôles ne pas assez. Une loi n'a de sens que si elle est respectée et appliquée. Une loi non appliquée est comparable à un sac vide qui ne peut se tenir debout. Aussi, il y a des agents économiques qui peuvent remarquer des abus, mais ils ne sanctionnent pas. Des deux, il y a la non-vulgarisation de loi sur le prix. C'est une loi qui date de 61, ainsi que les mesures. La plus grande chose aussi qui tue notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à vulgariser nos lois. Le journal officiel n'a de siège qu'au Congo. Les opérateurs économiques de l'intérieur, les consommateurs ne savent pas quelles sont les mesures qui nous régentent par rapport au prix. Voilà pourquoi le peuple congolais meurt faute de connaissances. Qu'est-ce que je peux proposer pour trouver des solutions à ces problèmes? Premièrement, JR, il faudra qu'on renforce les contrôles comme on l'a dit. C'est vrai, mais moi je pense que le renforcement du contrôle de la légalité de prix passera par trois choses. Premièrement, il faudra recruter un personnel qualifié. Des deux, il faudra bien le rémunérer. Nous l'avons toujours dit et nous cesserons de le dire, on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir une vertu sans le minimum de bien-être. Si ces gens-là n'arrivent pas à sanctionner, à faire les bons contrôles, c'est parce qu'ils sont mal payés. Et lorsqu'on est mal payé, la corruption est inévitable. Et pour finir, il faudra sanctionner les infracteurs. Tout celui qui ne respecte pas la loi sur le prix ou la mesure sur le prix commet une infraction. Et dans un état de droit, on reconnaît le cas des droits par la sanction de ceux qui ne vulgarisent pas. Des deux JR, je voudrais proposer qu'on vulgarise la loi. Il y a un principe qui dit dans notre constitution, nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment voulez-vous que la population connaisse la loi si elle n'est pas vulgarisée? Il faudra que toutes les mesures relatives au prix, toutes les conclusions des rapports faits soient vulgarisées pour permettre à la population de ne plus être dupe. Et pour finir, je voudrais proposer au ministre Jean-Paul Nemoyato, qui est en fonction maintenant, à fixer les prix des denrées alimentaires, il faut que l'autorité recueille les avis des consommateurs et des producteurs. Parce qu'en matière économique, il y a des mesures qui sont unilatérales, il y a aussi des mesures qui doivent être concertées. Ceci pour éviter des prix inhumains. Le prix en droit économique doit refléter les réalités sociales des Congolais. On ne peut pas fixer un prix qui dépasse le PIB normal d'un Congolais. Voilà pourquoi je souhaiterais qu'à la prochaine, avant de fixer un prix d'une denrée alimentaire, il faut que l'autorité mette en place les syndicats des consommateurs, les syndicats des producteurs ou des opérateurs, pour éviter les prix illicites ou anormaux. Voilà ma préoccupation aujourd'hui et je voudrais appeler tout le monde au respect de la loi qui est la seule solution à mon avis pour que l'état des droits puisse vraiment réunir un RDC. C'est que je vous remercie.
Merci beaucoup Omar. 081-890-3315.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous revenons à vous, Monsieur le Ministre, Jean-Paul Nemoyato. Vous avez suivi tour à tour Eddy de Lubumbashi, Maître Adrien de Kananga, Docteur Richard de Kinshasa, Omar qui est de la même ville que Docteur Richard. Alors tous, ils ont parlé avec leur cœur. Il y a d'autres qui nous ont fait réfléchir par rapport à la problématique. Que répondez-vous aux uns aux autres? Et en commençant par Eddy qui a parlé de ce principe basique de l'économie, l'offre et la demande, et l'effet, il a comparé à l'effet de la pesanteur en physique, et qui dit, en tout cas, pour qu'on arrive à trouver une solution, il faut passer par instaurer un fonds pour soutenir les commerçants qui travaillent dans les secteurs.
Merci beaucoup, JR. À mon tour, je remercie également les intervenants de tout à l'heure, surtout pour les encouragements qu'ils ont exprimés et les propositions clairement exprimées qu'ils ont formulées. C'est vrai que Eddy a raison. d'évoquer ce principe physique de pesanteur, la pesanteur qui a pour effet de
attirer
toujours vers le bas toute force ascendante. Ce qui fait que, si on revient en économie, il a raison de dire que dans tous les cas, nonobstant toutes les conclusions qu'on a évoquées tout à l'heure, et les consultants lui-même, parce que je n'étais pas encore arrivé au chapitre qui aborde les recommandations, dans le chapitre des recommandations, les consultants parlent, n'est-ce pas, de la réduction de la dépendance alimentaire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au niveau national, nous puissions donc mettre en place une politique volontariste se caractérisant par un accompagnement des producteurs nationaux à l'effet d'augmenter donc la production nationale et créer, nous le souhaitons, l'autosuffisance alimentaire et ou la sécurité alimentaire. Donc, dans le même cadre, notre ami Eddy a même proposé la création d'un fonds national pour le soutien, n'est-ce pas, de ces opérateurs économiques. Alors, je voudrais dire que nous sommes sur le schéma. Je pense que on ne peut pas parler des choses comme ça. Il faut parler des réalités. Vous avez vu que ça ne fait pas longtemps, le gouvernement a signé un contrat de partenariat public et privé avec un opérateur israélien qui a été recruté pour la relance, n'est-ce pas, de la ferme de Daipen. Et donc, selon le programme d'activité de l'exploitant, nous sommes rassurés que d'ici fin décembre, Daipen pourrait commencer à produire. Et donc, j'ai toujours dit en tant que ministre de l'économie nationale que lorsque nous voyons l'offre de Daipen est devenue effective, des dispositions seront prises pour limiter les importations à l'effet de donner créer un marché solvable en faveur de Daipen. Donc, on est sur le chemin. Aujourd'hui, le ministre des Travaux publics est en train de sillonner tous les pays dans le cadre du programme de réunification routière parce que nous estimons que certains produits que nous importons sont produits localement, mais à cause de l'enclavement et de la dégradation des routes des dessertes agricoles et d'intérêt national, ces produits ne peuvent pas être évacués pour amener ça vers le centre de consommation que sont les villes essentiellement. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours, mais dont les effets ne peuvent être ressentis qu'après un certain temps. Mais en tant que ministre de l'économie et commerce et connaissant notre pays, je suis gêné de constater que nous dépendons des importations alimentaires et c'est ce qui met notre pays, n'est-ce pas, aux caprices des importateurs. Monsieur Adrien qui est à Kananga, il dit que bon, un réveil tardif du gouvernement, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'accepte les critiques. La multiplicité des taxes, bon, ça c'est un chapitre qui est discutable parce que vous avez vu...
Ça nous renvoie même à vous poser la question sur qu'en est-il avec la nomenclature des prix.
Oui, en fait, d'abord la multiplicité des taxes. Mmh. Vous savez que le problème du climat des affaires, ce n'est pas un compliment pour le gouvernement lorsque nous entendons des critiques par-ci par-là sur la question. Ce qui fait que c'est une question qui gêne le gouvernement. Vous avez vu, parce que vous êtes journaliste, que ça fait plus de 3 mois maintenant que le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, lui-même, a repris les dossiers parce que chaque lundi à 17h, il réunit les ministres qui sont concernés par des questions de climat des affaires et les services de l'État, la DGDA, l'OCC, pour que nous puissions suivre ensemble les décisions, l'exécution de certaines décisions que le gouvernement a prises en matière de suppression des taxes illicites. Au jour d'aujourd'hui, à travers le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre a atteint le gouverneur de province pour leur demander de créer des cellules provinciales du climat des affaires et on demande au gouverneur, aux services provinciaux de participer à cet effort d'amélioration du climat des affaires. Et chaque semaine, le Premier ministre reçoit les rapports sur l'évolution des indicateurs. Je pense que nous sommes très avancés dans ces domaines. Mmh. À ce qui concerne la nomenclature sur le commerce de détail et tout ça. Et bon, je pense que Adrien a raison, parce qu'il faut reconnaître que sur le plan institutionnel, la loi sur le petit commerce existe. Nous avons, à travers les nomenclatures, parce que j'étais passé ici dernièrement pour dire que nous étions en pourparlers avec les associations patronales pour élaborer cette nomenclature. Qu'on dise à des termes clairs à partir de quelle quantité on est dans le commerce de gros et dans quelle quantité on est dans le commerce de détail, et la définition, la fixation des marges bénéficiaires correspondant aux grossistes comme aux détaillants. Ces textes sont signés et vulgarisés. Moi-même, je suis passé au niveau de certaines provinces pour faire la vulgarisation, mais le grand problème, comme Adrien a dit, c'est l'inefficacité, n'est-ce pas, du contrôle économique. Parce que ces textes existent, on demande aux inspecteurs qui sont au niveau des villes et des provinces de faire ce que les opérateurs économiques sont en train de faire, mais ils perçoivent des marges bénéficiaires excessives. Comme dit le consultant, c'est aussi à cause du fait que sur le terrain, les inspecteurs ne font pas leur travail. Et donc, je suis d'accord avec Adrien lorsqu'il propose que nous devons en fait faire la commission de suivi, d'autant plus que dans le secteur pétrolier, cette commission existe. Et voilà que nous avons un peu la paix sur l'évolution des prix d'état, donc de pétrole, parce que grâce aux commissions, à l'existence de la commission des suivis qui se réunit toutes les deux semaines, on examine et puis on apprécie l'évolution des différents paramètres contenus dans la structure des prix des produits pétroliers, ce qui fait que grâce à cette surveillance permanente, nous allons créer la commission de suivi qui fonctionnerait à l'image du comité de suivi des structures des prix des produits pétroliers.
Oui, pour aller vite avant d'accorder la parole à cette deuxième série des auditeurs, il y a Omar qui a parlé de la loi de 1961. J'imagine que cette loi qui devait être de l'application. Lui, il a parlé de l'approche sociologique. Il constate que ce texte, entre le texte et la réalité, il y a vraiment un creux. Il dit, bon, il y a les défauts d'ailleurs d'affichage comme premier élément, et il propose de renforcer le contrôle, de vulgariser la loi et de la réduction donc de la dépendance alimentaire. Vous l'avez d'ailleurs dit par rapport à certains projets, mais comment orientez-vous sa préoccupation?
Il a raison, c'est-à-dire que le grand problème aujourd'hui, non seulement dans les domaines économiques et dans plusieurs secteurs, les lois, le Parlement a fait un effort législatif important parce que des lois sont votées, mais dans la plupart des cas, son loi sont méconnues. Je suis d'accord avec lui qu'il faut vulgarisation de ces lois. Je félicite la radio Capi qui de temps en temps invite donc le faiseur de lois et le gouvernement pour qu'on puisse parler de certaines lois telles que nous les faisons maintenant. Mais je suis aussi d'accord avec lui que il faut que en matière de, c'est pas moi, fixation des prix, requérir les avis des consommateurs et des producteurs. J'allais dire que par rapport à cette préoccupation qui est fondée, depuis le 28 en fait décembre 2012, son Excellence Monsieur le Président de la République a instruit le gouvernement pour qu'on réhabilite les cadres permanents de concertation économique avec les opérateurs économiques. Je pense que vous m'avez vu à l'œuvre, ce cadre est aujourd'hui réhabilité, ce qui fait que les rapports dont je vous parle ici, c'est pas un texte que nous l'exploitons en solo. Le président, par exemple, de la FEC, c'est que je le vis déjà plusieurs fois, nous avons parlé des contenus de ces rapports. Au jour d'aujourd'hui, ce rapport est transmis à toutes les institutions, la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, les deux chambres, et tout ça. Vous avez vu comment, lors les jours de la présentation du rapport, il y avait une présence de toutes les institutions qui sont venues en appui de ce dossier, parce que c'est une question transversale qui intéresse tout le monde. Le secteur privé, notamment la FEC, la COPEMOCO, le FENAPEC, je leur ai transmis les copies de ces rapports. Donc maintenant, nous sommes en train d'étudier la question. On va définir un calendrier pour qu'ensemble, nous puissions discuter
discuter de ces rapports avec le secteur privé. Il va de soi, donc j'en arrive, lorsque manifestement nous allons trouver que, comme dit le consultant, il y a les marges bénéficiaires excessives, ça c'est déjà, ça énerve la loi parce que la loi a fixé la marge bénéficiaire, mais comment ils se sont permis d'aller au-delà de la marge légale, ça ce sont des questions qui nous intéressent. Je pense que les questions de sanctions, il faut suivre ça, nous ne pouvons pas.
Alors, monsieur le ministre, on va revenir à vous pour les recommandations de ces rapports. On prend d'abord Séraphin qui est à Ouvira et Raphaël qui est à Kananga et Dadi est à Kinshasa. Séraphin, bonjour. Séraphin, vous êtes avec nous, vous êtes à Ouvira, bonjour.
Bonjour, JR, ainsi qu'à son excellence.
Voilà, Séraphin, vous avez la parole.
Oui, merci de l'opportunité que vous m'accordez une fois depuis que j'ai passé à cette émission. À l'entrée du jeu, je voudrais d'abord signaler non seulement qu'il n'existe pas une pratique uniforme de détermination des prix, mais de nombreuses pratiques. Et cela tient en grande partie à la diversité et à la situation des entreprises, producteurs ou distributeurs en situation de concurrence ou non, mais avec une proportion élevée des coûts fixes ou des coûts variables. Mais aussi, la liberté des prix n'est pas la liberté des augmentations abusives. J'ai bien suivi son excellence, monsieur le ministre de l'économie, mais néanmoins, il a l'intervention du gouvernement, c'est bon, dans la fixation des prix, mais qu'il n'ignore pas l'intervention directe du gouvernement dans la fixation des prix a aussi des effets indésirables. Et parmi ces effets indésirables, nous avons par exemple les non-corrections des déséquilibres. Et là, on voit, en cas de cette production, les prix minima freinent la baisse de l'offre. Et il y a aussi l'effet indésirable, le blocage de la concurrence. La politique de fixation des prix bloque la concurrence par les prix. Il y a aussi l'absence de gains pour le consommateur et risque d'inefficacité pour l'entreprise. Et quant à ce qui concerne aussi la mauvaise orientation des investissements, les prix ne sont plus indicateurs de l'évolution de la demande. Ils permettent plus d'orienter convenablement l'offre ainsi que les investissements. Donc, il y a un certain nombre d'effets indésirables lorsque l'État intervient directement sur la fixation des prix. C'est ce que je viens d'énumérer. Mmh. Et moi, je crains que l'État puisse intervenir d'une manière indirecte. Parce que lorsque l'État intervient d'une manière indirecte dans la fixation des prix, il y a aussi l'État exerce une influence dans la demande et l'offre. Et parmi ces influences, la politique des droits de douane pour les consommateurs permettant à la limitation de l'offre étrangère. Donc moi, je voudrais à ce que son excellence, monsieur...
Oui, Séraphin. Séraphin, s'il vous plaît, vous allez poursuivre. Mais est-ce que vous êtes sans ignorer, en tant qu'économiste, que la mission régalienne accordée au ministère de l'économie, la première, c'est au fait proposer une politique générale de la production et aussi la réglementation du marché intérieur par le contrôle a priori des prix des produits locaux de base et a posteriori pour les produits importés et les tarifs des prestations des services.
Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais néanmoins, vous devez savoir qu'il n'existe pas une pratique uniforme, parce que ça dépend aussi d'une politique de l'entreprise, avec l'intérêt de la concurrence aussi. Parce que toute entreprise, son objectif d'abord, c'est de gagner, donc de maximiser le minimiser les coûts, maximiser les recettes. Mmh. Mais néanmoins, face à cette concurrence, cette entreprise qui fixera le coût ou le prix de vente de son produit, mais face à cette concurrence, c'est ce que je voudrais dire. Mais néanmoins, ça n'empêche pas ce que l'État, comme son excellence, monsieur le ministre, vient de le dire, on a fixer une marge bénéficiaire. Mais l'entreprise doit nager maintenant sur cette marge bénéficiaire. Ça dépend d'une entreprise à une autre. Et ça dépend aussi de la concurrence que cette dernière a contrôlée sur le marché des biens ou services.
Mmh. Merci beaucoup, Séraphin, d'avoir contribué dans cette émission et surtout d'avoir évoqué des effets indésirables dans la mesure où l'État intervient directement. Raphaël, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Journaliste, bonjour, mon excellence, monsieur le ministre de l'économie.
Raphaël, vous avez la parole.
Vous voyez, je suis vraiment content, mais nous devons montrer vraiment ce qui est vraiment à cause de ce qui s'est passé. Dans notre pays, vraiment, il y a une multitude d'impôts. Et il y a la...
Voilà, Raphaël, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible sur les ondes, parce que là, vous sortez vraiment à entrecouper, on ne saura pas bien comprendre votre intervention. Le temps que votre ligne puisse vraiment s'améliorer, on reviendra à vous. Dadi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Dadi.
Oui, moi, je vais aborder dans le même sens que Eddy et Maître Adrien de Kananga pour dire au ministre Kino, voilà, son excellence, moi, personnellement, je vous apprécie de la façon dont vous travaillez. Mais ce que je peux tout simplement proposer concernant ce sujet, c'est qu'il faut promouvoir la production locale et faire de telle sorte que nos investisseurs... locaux ou nationaux soient un peu dotés des fonds nécessaires à pouvoir œuvrer dans tous les secteurs. Vous savez, moi j'avais suivi de loin les forums qui s'étaient organisés avant de venir ici par le président Denis Sassou Nguesso, où notre compatriote Albert Yuma avait dit ceci. Vous savez, ce qui gangrène notre économie, le problème est lié avec nos investisseurs. Nos investisseurs, au jour d'aujourd'hui, ne se dotent pas des fonds nécessaires. Alors, il faut promouvoir l'investissement national pour qu'on puisse faire avancer notre économie. Et enfin, je dirais ceci, Son Excellence, je ne sais pas, vous êtes ministre, vous avez une parcelle de pouvoir. S'il faut frapper, il faut frapper. Un chef ne peut pas se plaindre pour dire que non, voilà, dans les chefs de nos agents économiques, il y a des failles. Mais sanctionnez-les. Qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner tous ces gens-là? Moi, personnellement, à chaque fois que je vais acheter un produit, je vois les commerçants étrangers affichent les prix. Mais lorsque j'achète, ils essaient un peu de vendre tous ces prix-là en détail, en violation même des décisions que vous avez prises concernant l'exercice des
petits commerces
et pas les nationaux. Alors, je ne sais pas, monsieur le gouverneur, si on est allé même à Kisangani dans votre propre province d'origine, vous allez trouver, parce qu'on a des familles un peu partout à travers la République démocratique du Congo, vous appelez, ils vous disent non, voilà, nous ici, les étrangers continuent toujours à vendre, à exercer des petits commerces. Alors, moi, je vous dis, travaillez, n'ayez pas peur, parce que vous savez, ici, dans notre pays, lorsque une autorité prend une grande décision à l'intérêt de la population, tout de suite, il est soit révoqué par les chefs de l'État. Mais si, pour votre cas, vous êtes révoqué, nous allons introduire une pétition pour que vous
voilà, soyez alors, dans votre Dadi, fonctionnaire, pas très honnête. Dadi, on n'est pas là pour ça. Le problème, si je comprends bien votre intervention, peut-être que vous l'avez dit d'une manière un peu indirecte, vous avez des soucis. Hein, vous voulez vraiment vous faire une idée sur en fait, la décision qui a été prise quant à l'exercice de petit commerce. Aujourd'hui, toutes ces décisions-là, vous vous rendez compte qu'il y a quand même certains opérateurs qui ont bafoué et qui ont mis dans le placard ces décisions et qui continuent, en tout cas, à faire comme bon les temps. Voilà. Et vous souhaitez qu'on puisse faire la promotion de la production locale. Vous avez même cité nommément Albert Yuma, le président de FEC, qui, lors de la conférence économique à Brazzaville, a même cité que ce qui gangrène l'économie de la RDC, c'est au fait cette inefficacité des opérateurs économiques qui ne sont pas dotés des fonds nécessaires pour faire ce travail. Merci beaucoup, Dadi. Nous prenons Maître Gaston qui est à Kinshasa. Bonjour, Maître Gaston.
Merci à vous aussi, Monsieur Jean-Louis.
Vous avez la parole, Maître Gaston.
Oui, j'allais dire que, quand vous m'appelez déjà maître, nous, en droit, nous disons le droit économique, c'est un monstre juridique. Donc, c'est un droit nouvel qui a beaucoup d'innovations que, en quelque sorte, nos auditeurs sont censés avoir une idée. D'abord, j'allais fixer les idées sur les textes qui régissent la réglementation en matière de prix intérieurs. Dans notre pays, nous avons le décret-loi de 61, l'ordonnance-loi de 1983, l'arrêté de 1976, mais aussi l'arrêté de 1981. Ce sont là les textes qui régissent la réglementation des prix dans notre pays. Et puis, notre législation consacre la liberté en matière de la fixation des prix commerciaux par les producteurs industriels, les opérateurs grossistes, mais aussi les commerçants détaillants. Et la loi ne se limite pas seulement à accorder cette liberté-là, impose aussi certaines obligations à ces derniers qui consiste à communiquer les déclarations périodiques de leur production ou importation, de leur stock, de la structure des prix en vue de contrôle, d'un contrôle administratif a posteriori. La loi fixe les éléments en quelque sorte dont le coût revient dans les structures que je vais expliquer aussi, l'égal du prix des revient. Elle autorise aussi une marge bénéficiaire que ces derniers sont censés respecter. Mmh. Les producteurs industriels, la marge bénéficiaire c'est de 20%, les importateurs grossistes de 10 à 20% selon les produits. Les commerçants détaillants, c'est 10 à 20% selon les produits. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau, monsieur le journaliste? Moi, comme c'est le ministre qui est là, j'ai mené beaucoup de recherches dans le domaine. Je vous dirais que le problème, c'est au niveau de l'administration. Vous allez constater que il y a les gens qui se permettent de violer la loi fiscale, disons la loi, la réglementation. Mais la loi n'est pas vide dans le cas de ceci, que la loi prévoit les garde-fous pour les gens qui se comportent dans des pareils cas. Alors, il y a des agents économiques partout. Ces agents-là sont censés sillonner, voir si la réglementation est respectée. Les cas contraires, les contrevenants sont censés purger, être condamnés et purger la peine. Mais vous allez constater que dans la plupart des cas, c'est quoi? Lorsque ces gens-là descendent sur le terrain, et d'ailleurs, j'allais dire une chose, c'est aussi un problème des sanctions en matière économique. Quelles sont les sanctions qui sont prévues? Par exemple, lorsque vous constatez, vous descendez sur le terrain, vous constatez que une personne a exagéré les prix. Et puis, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Qui sont prévues? Les prix, donc, ce sont des amendes transactionnelles. Or, ces amendes-là, vous savez, les commerçants, ce sont les gens qui jouent avec l'argent. Dès que vous l'obligez de payer l'amende, il a la possibilité de payer, après quoi il va se comporter toujours de la même manière. Donc l'amende n'est pas une sanction efficace pour des gens, par exemple, qui commettent
des... Et vous proposez quoi, maître Gaston? Oui, vous proposez quoi?
Oui.
Vous proposez quoi concrètement, maître Gaston?
Ah oui, en quelque sorte, j'allais tout simplement dire que ces agents-là sont des fois, ne font pas comme il faut leur travail. Ça,
c'est donc vous proposez qu'on sanctionne...
Ils n'arrivent pas à attraper ces gens-là, pourquoi? Parce qu'ils sont en quelque sorte d'abord pauvres, et lorsqu'on on propose la corruption, ils acceptent, et puis l'amende, on ne sait pas voir s'ils versent ça aux caisses de l'État. Vraiment, pour revoir l'administration,
merci.
Que sanctionner sévèrement ceux qui violent la loi.
Merci beaucoup, maître Gaston, d'avoir appelé de Kinshasa. Mangoyoga, restez en ligne. On va vous accorder la parole, monsieur le ministre.
Merci beaucoup aux intervenants pour cette deuxième série de questions qui aborde essentiellement le problème ou le chapitre sur les recommandations. D'abord, notre ami Séraphin qui nous a appelé à partir du Vira. Il dit que la fixation des prix par le gouvernement ou l'État peut parfois avoir des effets pervers ou indésirables donc dans les chefs des opérateurs économiques. Mais je peux combiner sa question avec le dernier intervenant, Maître Gaston, parce qu'en fait, l'État, à l'exception des produits stratégiques comme le pétrole, l'électricité, et l'eau, le transport public, ne fixe pas les prix. Vous avez suivi avec Maître Gaston qui évoque la loi de 83 qui consacre la liberté en matière de fixation des prix au niveau des opérateurs économiques, ce qui fait qu'en réalité, les opérateurs économiques ont la liberté de faire la déclaration de leur structure des prix à l'administration de l'économie nationale pour que celle-ci puisse faire le contrôle a posteriori. Et les rapports que nous vous présentons aujourd'hui relèvent du contrôle a posteriori. Nous sommes conscients de l'inefficacité de l'administration et c'est pourquoi nous avons recouru à l'expertise extérieure pour faire ce contrôle a posteriori. Lesquels contrôles a posteriori nous donnent aujourd'hui beaucoup de révélations sur le comportement en fait des opérateurs économiques. Et donc, nous ne fixons pas les prix, mais nous nous étonnons de l'ampleur ou du niveau excessif des prix qui effrite le pouvoir d'achat des consommateurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le paradoxe est que nous sommes dans un pays où le revenu par habitant est encore très faible, mais en face de ça, nous avons des niveaux de prix à la consommation qui sont élevés. Donc ça constitue une préoccupation du gouvernement, c'est pourquoi nous avons fait ces rapports. Si au jour d'aujourd'hui nous les rendons publics et nous sommes venus sensibiliser ou le mettre, essayer d'informer la population sur l'évolution, ce n'est pas que nous nous plaignons.
C'est une mission de rendre compte, d'informer la population sur ce qui s'est fait.
Et on ne croise pas les bras. Qu'est-ce qui va se passer après?
Ce qui va se passer, c'est ce que je venais de dire, qu'en réalité, nous avons un cadre de concertation. Au jour d'aujourd'hui, le ministère des Finances, par exemple, à travers la DGI, la DGDA, et les autres services, l'OCC, et donc nous sommes entrés, on a fait déjà une équipe de négociations. Nous avons écrit à l'AFEC et aux autres secteurs, donc intervenants privés, pour que nous puissions nous retrouver avec les agents, donc les importateurs. Ils sont connus. Orgaman, Socimex, donc Congo Fiti, ils sont connus. Et donc, nous allons nous retrouver avec le secteur privé. Non pas dans un tribunal, mais nous allons échanger en vertu de la transparence. Parce qu'il y a aussi la notion de l'éthique, l'éthique d'affaires. Quelqu'un a dit ici que la liberté qu'on leur donne n'est pas un boulevard qu'on leur donne pour qu'ils puissent mettre les prix comme ils veulent. Parce que maintenant, ça crée un problème. Donc, nous allons nous concerter. Et donc, là où il y a des problèmes, on va élaguer dans la structure, dans leur structure des prix qu'ils déposent, des éléments qui sont inutilement élevés, nous devons mettre des prix que les consultants relevés sur le terrain. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, le carton de chinchard est vendu à plus de 75-80 $.
$100 d'ailleurs.
Bon, en réalité, si nous faisons, le consultant a fait la traçabilité des éléments qui interviennent dans la comptabilité. Et donc, il a trouvé que ces chinchards ne devraient pas, les cartons ne devraient pas se vendre à plus de $50. Donc, nous avons ces informations. On va échanger. Mais l'objectif du gouvernement, il faut que je le dise, compte tenu des informations probantes fournies par le consultant, je pense que la vérité des prix à laquelle nous allons aboutir va nous amener à la diminution significative des prix. C'est ça que nous recherchons, de sorte que nous puissions augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs.
Donc on peut observer ça à court, à moyen ou à long terme.
Oui, mais le rapport est déjà rendu disponible. Mm-hmm. Je vous ai dit que je l'ai déjà transmis au secteur privé.
Donc les effets.
Donc d'ici la semaine prochaine, les discussions vont commencer.
Et puis la population.
Et vous devez suivre les discussions. Donc avant qu'on entame les discussions, je voudrais seulement, je pense que j'ai amené mon conseiller qui va vous aider à ce que ces rapports soient mis dans le site de Radio Okapi en vertu de la transparence. Tout le monde va suivre et donc, comme je disais, tout va se savoir.
Voilà, on va revenir à vous, le temps pour nous de dire quand même un bonjour à notre auditeur qui attend très longtemps, mais on pourrait peut-être revenir à lui après le flash d'information parce qu'il nous reste encore 15 minutes pour entamer avec une troisième et une dernière.
Il y avait un petit détail.
Voilà, on va revenir dans 15 minutes, donc dans une minute après le flash d'information. Le temps de dire aussi bonjour à Ingénieur Mangoyo. Ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, ne quittez pas la ligne, donc restez là, nous allons vous accorder la parole tout à l'heure, et puis une question qui reste aussi pendante, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement après la publication du rapport sur la structure des prix et les commerces triangulaires, donc on va revenir sur ça, donc nous rappelons que vous pouvez participer également à cette émission en composant, bien entendu, les 081-890-63-15 pour les appels en direct. Vous pouvez aussi déposer vos commentaires sur notre page Facebook, ou encore, nous envoyer par mail, @pa@radiokapi.net.
Radio Okapi.
Le bulletin d'information, Pascal Massirika.
Okapi. Bonjour à tous. Les populations fuient actuellement Kikaya depuis hier matin. C'est un village situé à plus ou moins 90 km dans le secteur de Benimbao au nord-est du territoire de Beni. Selon des sources locales, ces personnes fuient les exactions des rebelles ougandais de ADF Nalu. Nouvelle confirmée par la société civile du territoire de Beni. La société civile appelle à un déploiement rapide des casques bleus dans la zone pour la sécurisation des populations. Cri d'alarme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 705 cas d'agression sexuelle recensés depuis janvier dans le Nord Kivu. Le HCR parle d'une augmentation alarmante des agressions sexuelles dans l'est du Congo-Kinshasa dans un communiqué publié mardi à Kinshasa. En Ituri, plus de 500 cas de rougeole, dont 9 décès sont déjà enregistrés depuis le mois de mai dans la zone de santé de Nizi à 25 km au nord de Bounia. Ces chiffres ont été publiés lundi dernier dans un communiqué de presse de Médecins sans frontières à Bounia. Et au sud Kivu, 4 personnes membres d'une même famille sont mortes assassinées cette nuit dans la localité de Moutaroulé, dans la plaine de la Ruzizi. D'après les investigations menées conjointement par les FARDC, la police et l'ANR, l'attaque serait attribuée à des bandits armés, mais non encore bien identifiés. Cet assassinat arrive dans un contexte très critique marqué par des conflits intercommunautaires entre les Barundi et les Bafuliro de la plaine de la Ruzizi. Et puis insuffisance des écoles secondaires dans la chefferie de Bangengele, précisément à Lokando, localité située à 60 km de Kindu dans le territoire de Kailo-Maniema. Il existe dans chacune de ces entités un seul établissement secondaire qui se limite d'ailleurs en cinquième année seulement. Pas de classe de sixième année des humanités pouvant produire des diplômés, déplore le chef de poste d'encadrement administratif de Lokando. Celui-ci précise même que dans le secteur de Bangala, les élèves sont obligés de parcourir une distance de 16 km pour joindre la seule école secondaire qui existe à 24 km. Il est 11h02 à Kinshasa et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous des nouvelles à 12h avec Babel Pongo Massimango pour une édition complète.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Monsieur le ministre, avant le flash d'information, il y avait un détail sur l'intervention de tout à l'heure de notre auditeur Maître Gaston, et ainsi que l'intervention de Séraphin qui avait appelé de Ouvira.
Oui, je crois avoir ramassé les questions de Séraphin et de Gaston, mais j'étais en train d'aborder en fait... l'intervention de notre ami qui a appelé Dadi Kinshasa, qui nous a certes encouragé et qui nous a proposé donc la promotion de la production locale, chose que nous acceptons parce que c'est prévu dans les recommandations. Mais la petite observation que je voulais faire à Dadi, parce que il a exprimé une crainte que on pouvait sanctionner un ministre qui s'approche sur ce type de questions, non. Je voudrais leur assurer que ce dossier a bénéficié du soutien de l'ensemble du gouvernement. Je pense que les jours de la restitution au Lautaro Mbonimpa, vous avez vu pratiquement tous les gouvernements étaient là, les deux vice-premiers ministres ils étaient là et avec beaucoup de ministres. Et l'action que nous menons ici est compatible à la vision du chef de l'État qui, vous avez vu, vous avez suivi le 15 décembre 2012 lorsqu'il s'est exprimé devant le Congrès. Il a fait une reproche au gouvernement en disant que la croissance économique qui fait notre force mais n'est pas encore ressentie par la population. Et donc, la deuxième année de ce gouvernement, le Premier ministre l'a dit que c'est une année du social, et donc ce sont des actions sociales qui constituent aujourd'hui des chantiers prioritaires que nous estimons que si nous pouvons obtenir, dissiper d'ailleurs parce que tout est là, on va faire des négociations. Donc, voilà. Nous sommes... en train de rechercher à améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs.
Voilà, parce que dans 10 minutes, on va se séparer. On accorde la parole à notre éditeur qui a attendu un peu longtemps. Sure. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Ingénieur Mangoyo.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole.
Merci, JR, pour la parole. Monsieur JR, moi, d'abord, je salue notre invité, son Excellence, Monsieur le Ministre. Je l'encourage pour tous les efforts qu'il est en train de déployer pour essayer de résoudre certains problèmes qui se posent au niveau de son secteur. Ça, je l'encourage. Néanmoins, j'ai trois préoccupations que je voudrais partager avec son Excellence. La première, Excellence, Monsieur le Ministre, est-ce que vous savez quand même que au centre de tout, il y a l'homme. Vous avez dit que vous avez été à Kisangani, où vous êtes allé intervenir personnellement, alors qu'il y a des gens qui doivent travailler. Après vous, quelle est la situation à Kisangani? Est-ce que vous ne voyez pas que quelles sont les précautions, les remèdes que vous prenez en ce qui concerne l'homme qui doit intervenir partout et pas le ministre? Donc, les fonctionnaires, je veux dire ici. Alors, moi, je vais vous citer un petit exemple. Je voudrais descendre un peu trop bas. Ces petits vendeurs de cacahuètes, etc. On se réveille le matin, moi j'ai vu, vous voyez le bidon de 5 litres là, ces vendeurs de cacahuètes, il prend le bouchon là, il vend avec ça les cacahuètes. Donc, il fixe lui-même le prix. Est-ce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Ça, c'est une préoccupation. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne les transporteurs, hein, sur la nationale numéro 1, tous ces transporteurs, les commerçants, les indo-pakistanais, excellence, j'ai l'impression...
Oui, ingénieur Mangoyo, peut-être pour vous orienter un peu, nous parlons du commerce triangulaire, mais néanmoins, bon, n'empêche que vous puissiez aborder aussi les petits commerçants ou les commerces en détail, mais nous insistons beaucoup plus sur les commerces triangulaires. On a cité les cas de gens qui importent, par exemple, les séchards de la Namibie, et qui arrivent ici, hein, pas au même prix, ou peut-être s'il faut ajouter avec tous les frais liés aux dépenses pour que cela arrive ici. Mais il y a un peu de prix exagéré, et que, comme l'a dit Monsieur le Ministre, il y a une marge bénéficiaire qui est trop excessive. Voilà, nous parlons de ces commerces triangulaires.
Oui, Monsieur Gérard, moi je crois que le commerce triangulaire pour les petits, les petits peuples, pour les...
Voilà, allez-y.
C'est aussi l'économie, tout ça.
Tout à fait, allez-y.
Mais moi je voudrais plutôt parler rapidement de ces commerçants indo-pakistanais, par exemple. Vous voyez, Excellence, Monsieur le Ministre, nous avons l'impression que cette libéralisation du secteur ou la fixation des prix entraîne certaines conséquences. Et sur le national numéro 1, par exemple, aujourd'hui, on a l'impression que l'État est totalement absent. Pourquoi on n'arrive pas à réhabiliter l'ex-Onatra? Qu'est-ce qui peut arriver un jour si ces Indo-Pakistanais, tous ces transporteurs privés-là, décider d'arrêter? Qu'est-ce qui va arriver pour Kinshasa et le reste du pays en ce qui concerne l'évacuation des produits à partir de Matadi, à partir des bombes? Pourquoi on n'arrive pas à réhabiliter l'ex-Onatra en ce qui concerne le trafic par train? Ça, là, je voudrais que son Excellence, Monsieur le Ministre, réponde un peu à la question. Quels sont les obstacles à ce niveau-là? Et puis, le Cheshire, Gien. Il faut que, je voudrais aussi que notre invité nous dise pourquoi le domaine de la pêche maritime n'est pas relancé, n'est pas réhabilité. Quels sont aussi à ce niveau-là
les obstacles
qui se posent? Si son Excellence, Monsieur le Ministre, peut...
Voilà, merci beaucoup ingénieur, je crois que vous nous avez pris en cours de l'émission, il avait expliqué beaucoup d'éléments, mais il pourra encore revenir pour aider ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. On va donner la parole à John Kialikasi, une minute juste pour la conclusion. John, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une minute, John.
Bon, je vous suis fait avec beaucoup de problèmes, si vous pouvez intervenir.
Voilà, on ne saura pas vous le rappeler, parce que tellement qu'on est speed, on ne saura pas vous rappeler quand même. Je vous excuserai, les sujets étaient déjà mis sur le site, sur notre page Facebook depuis hier, donc je crois que revenir encore à l'antenne, ça paraît quand même trop, pas trop sérieux de notre part. Merci beaucoup John d'avoir appelé, et à la prochaine, peut-être on pourrait vous accorder la parole. Nous revenons à vous, monsieur le ministre, pour conclure cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. En conclusion, les rapports ont été publiés. Il y a une commission, comme vous l'avez dit, qui sera une commission de concertation avec les opérateurs économiques. Et dans quelques heures, vous allez faire un point de presse. Et quel est le contenu de ce point de presse?
Oui, je remercie encore ces derniers intervenants. Les préoccupations qu'ils ont exprimées sont fondées. Alors, moi, je pense que la réhabilitation de l'ex-Onatra, le gouvernement, je pense que le ministère des Transports est sur les dossiers. Je pense que d'ici septembre, il y a un lot, je crois, de 4 ou 5 locomotives qui vont arriver, justement pour réhabiliter l'Onatra. Donc, nous sommes sûrs que d'ici avant fin de l'année 2013, le trafic ferroviaire va reprendre sur Kinshasa et Matadi, et ça va nous mettre aussi à l'abri, n'est-ce pas, des autres tracasseries que nous subissons de la part des opérateurs économiques à ce moment-là, parce que le coût des transports, par exemple, les ciments, les valeurs fobes à partir du pays d'importation, c'est $60, mais les transports de la tonne de ciment entre Matadi et Kinshasa, c'est aussi $60. Je pense que ce sont des coûts prohibitifs, oui. Et tout ça avant d'entrer dans les négociations qu'on va entamer avec le secteur privé. Oui. Et donc, pour me résumer, ce que nous devons faire, donc après la publication du rapport, nous allons engager des discussions avec le secteur privé. Tout va se savoir. Alors, c'est dans le même cadre que d'ici 2 heures, nous allons faire un point de presse, n'est-ce pas, au niveau de notre cabinet, pour que nous puissions informer l'opinion sur les grandes conclusions, les principales conclusions et recommandations du consultant tel que je viens de faire ici.
Si je ne posais pas cette question, peut-être les auditeurs pouvaient m'en vouloir. Le prix du ciment, vous l'avez peut-être abordé, et c'est la question qui est d'actualité. Aujourd'hui, c'est vrai, dans des pays où on importe cette matière grise pour la construction des maisons, ce prix revient pratiquement, si nous prenons les cas de l'Égypte ou encore ailleurs là où on l'achète, c'est autour de $3-4. Mais ici, vous avez, vous, au niveau du ministère de l'économie, fixé à 16 000 francs congolais. Et ce n'est plus un secret. 16 000 francs congolais, tous les calculs faits, on est déjà au-delà de $20.
Oui, le prix de 16 000 francs qui avoisine $17, nous n'avons pas fixé, mais nous l'avons déterminé grâce à une concertation qui est liée dans mon bureau entre mon cabinet, le producteur, importateur et le distributeur. Mais en réalité, vous devez savoir que les faits économiques sont têtus, on ne peut pas les torturer. C'est la vérité, il y avait rareté des stocks de ciment sur le marché, compte tenu du fait que les pays avaient bénéficié d'un don japonais. Quand ce don était arrivé, ça se vendait à des prix un peu faibles, et cela avait découragé un peu les importateurs. C'est ce qui a fait que lorsque c'est la loi de l'offre et de la demande, ces stocks étaient épuisés, et ça a amené donc le prix à des spéculations que nous avons connues. Mais pour l'instant, nous avons trouvé le prix provisoire, mais ce n'est pas un prix de satisfaction. Dissipé, il y a la société Transgazelle qui a dit que d'ici la fin de la semaine prochaine, un lot important décide donc va arriver, certainement. Et demain, nous allons avoir une discussion avec les importateurs pour examiner la structure du prix.
Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie, merci d'être venu.
Merci bien.
Merci à vous tous qui avez suivi avec attention soutenue ce magazine 100% interactif. Et merci à Jean-Noël Mokondo qui a mis en onde cette production réalisée par Titi Mputu et Pierrot Elameji sous la supervision de Nkongaka. Une production qui a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo. On prend rendez-vous avec vous demain, Inch'Allah, ou peut-être après-demain, parce que demain c'est déjà la fête des parents. Merci, d'ici là, portez-vous bien. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, je vous convie à suivre la conférence hebdomadaire des Nations Unies avec Charles Bambara, le porte-parole AI de la MONUSCO.